Ici Annie Poulain, vous écoutez CKIA FM 88.3 à Québec. Tendez l'oreille, on parle de vous.
J'ai envie de rêver en couleur, mourir de rire et pas de peur. Respirer l'air à plein poumon, ne plus dire oui quand je pense non.
Cette émission vous est présentée en rediffusion.
Bonjour, bonsoir, bienvenue à Voix de fait sur les ondes de CKIA. Je suis Guillaume.
Jenny.
Et Farouk qui vous dit ce soir ou aujourd'hui après-midi, selon quand vous nous écoutez, c'est spécial dédicace.
Oui, parce qu'on a un héros de la semaine cette semaine. Et vous avez... Ben, en tout cas, si vous nous écoutez régulièrement, vous aurez sûrement deviné que notre héros... C'est Gilles Taillon
qui est
en train de couler l'ADQ finalement. Il va, ce parti-là va peut-être disparaître de la carte. Mais bon, on tenait à lui rendre hommage ce soir.
Fait que c'est la semaine du souvenir de Gilles Taillon.
C'est ça.
On va s'en rappeler de Taillon.
L'année prochaine, rappelez-vous-en le 11 novembre.
Ouais.
Alors, ce soir, on a quand même plusieurs sujets. Entre autres, on va parler un peu de anti-syndicalisme, donc deux dossiers dans ce domaine-là. Ensuite, on a quoi, Jenny?
On va parler de l'augmentation de l'itinérance à Rouyn-Noranda en Abitibi.
Puis, dans la même veine aussi, on va parler de l'itinérance à Montréal. Sinon, si on a le temps, on va parler aussi de haute finance. Et on a aussi une très intéressante entrevue que notre camarade François nous a fait avec le groupe Les Ogres de Barbac. Donc, on va vous présenter ça tout à l'heure.
On va même avoir deux pièces d'eux.
Ouais. Alors, c'est à suivre.
C'est à suivre, oui. On va commencer le tout avec René Binamé, spécial dédicace Phoebus qui nous a abandonné aujourd'hui. On a trouvé une pour toi. C'est la chanson du père du chêne sur les ondes de voix de fait. C'est KIA 88.3.
Nom de Dieu, à qui lui porte la haine sans Dieu. Je veux parler sans gêne.
Nom de Dieu.
Je veux parler sans gêne. D'aucun filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille.
D'aucun filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille.
Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir je travaille sans Dieu. Et je couche sur la paille.
Nom de Dieu.
Et je couche sur la paille. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense.
On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense.
Tandis que ces messieurs, nom de Dieu, s'arrondissent la France sans Dieu. Nous crevons d'abstinence.
Nom de Dieu.
Nous crevons d'abstinence. Vous méritez les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces progresses.
Vous méritez les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces progresses.
Au vigueur le moins vieux, nom de Dieu, s'en aller ma confesse sans Dieu. Se fait flotter les fesses.
Nom de Dieu.
Se fait flotter les fesses. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, prends ton propriétaire.
Si tu veux être heureux, nom de Dieu, prends ton propriétaire.
Double les curés en deux, nom de Dieu, tous les églises par terre sans Dieu. Et bon Dieu dans la merde.
Nom de Dieu.
Et bon Dieu dans la merde.
peuple trop oublie le nom de Dieu si jamais tu te lèves.
Peuple trop oublie le nom de Dieu si jamais tu te lèves.
Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron, bourgeois et prêtre sans Dieu. Mérite la lanterne,
nom de Dieu.
Mérite la lanterne. Mérite la lanterne.
Domine exodi, oratione meam. Dominus vobiscum, et spiritus sanctus. Amen.
Vous écoutez Voix de Fer.
Voilà. Ah bah c'était bon, hein.
Oh oui, mais c'était court.
Alors, de retour à Voix de Fer. Alors, dans les actualités cette semaine, on a pu voir deux exemples d'antisyndicalisme. En fait, c'est que, entre autres, le premier exemple, c'est dans un couche-tard dans le coin de Belle-Oeil. Il y a eu une fermeture assez radicale d'un dépanneur. Ce dépanneur-là aurait été le lieu d'une tentative de syndicalisation. En fait, un des employés qui avait commencé à faire signer des cartes, avait été renvoyé au courant de l'été. Puis cet employé-là, continuait quand même à la tentative de syndicalisation. Puis la signature de cartes allait quand même bon au train. Puis le dépanneur, en fait, une fois qu'ils ont été au courant, ont décidé de fermer fermer le tout. Ça a pris à peu près 3 jours, puis une fois qu'ils l'ont su, puis tout était placardé, la poste de gaz était démasée.
C'est vrai que le gaz, ça rapporte pas ces temps-ci.
Ouais, c'est ça, tu sais, le prix de l'essence qui augmente pas du tout, puis qui est comme pas un niveau, tu sais, rentable, tu sais, puis on sait que les dépanneurs non plus, tu sais, avec les trucs qui valent deux fois plus cher qu'à l'épicerie et encore, hein.
Le syndiqué renvoyé en question avait le droit de continuer à passer pour les cartes parce que quand tu fais une campagne de syndicalisation, tu peux aller chercher dans les 12 mois auparavant. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait été renvoyé il y a 2 semaines peut encore quand même signer lors d'une campagne.
Oui, effectivement. Puis, la compagnie, elle, de son côté, se défend de pouvoir fermer le dépanneur parce que, on n'est pas dans les délais. La demande, de syndicalisation n'était pas déposée encore. Mais, par contre, ils ne respectent pas non plus la règle qui dirait que ça prend un avis d'environ 4 à 8 semaines, pour dire aux employés, puis au fisc aussi, que, dans le fond, le dépanneur va être fermé. Fait que, bing bang, en 3 jours, on ferme ça sur des causes supposément de non-rentabilité.
3 jours.
3 jours.
Et c'est non-rentable, puis d'un coup, on n'est pas rentable, on ferme.
C'est ça, bien encore là, c'est 3 jours entre le moment où eux autres ont su qu'il y avait une tentative de syndicalisation, dans le fond, que ça se rende en haut, puis ça redescend l'ordre de fermer, mais les employés l'ont su le matin même, genre, ont été appelés comme « Hey, t'as plus de job. »
Fait que c'est fini.
C'est ça. Bref, j'imagine que la CSN est déjà sur le dossier parce que c'était avec la CSN, dans le fond, que la tentative de syndicalisation avait lieu. Donc, sûrement qu'il va y avoir quelques déboires en cours autour de ça, dans la même veine que le Walmart à Jonquière, entre autres, si on peut penser à un exemple de fermeture antisyndicale. Un deuxième dossier qui, lui, s'est passé à Québec, c'est un ancien employé du studio Longtail, une entreprise de jeux vidéo, qui est en train de contester son congédiement devant la commission des relations de travail. En fait, lui, ce qu'il soutient, c'est que c'est à cause de sa tentative de syndicalisation qui a eu lieu, il y a environ un an. Ça n'avait pas marché de ce côté-là, sauf que là, depuis ce temps-là, dans le fond, c'est comme si l'employeur avait accumulé des preuves et tout pour essayer de le congédier sous d'autres motifs que ce motif illégal là. Donc c'est ça, dans le fond, il est en train de contester ça, puis bien sûr l'employeur va dire que ce n'était pas pour cette raison-là, mais de ce côté-là, c'est l'Alliance de la fonction publique du Canada qui se bat avec l'employé en question pour essayer de faire reconnaître ses droits. Puis il y a lui qui a été renvoyé, mais c'est juste le premier qui est à la commission des relations de travail parce qu'il y a 5 autres de ses collègues qui sont en attente de voir leur cause devant la commission.
Eux, ils avaient signé des cartes, j'imagine.
Ouais, ben c'est ça. C'est sûrement... Ben en fait, lui, le premier qui est là devant la commission, c'est lui qui était vice-président ou président par intérim, en fait, là, avant la création du syndicat, là, avant qu'il y ait des élections comme telles. Puis les autres, ben j'imagine que c'était comme son équipe. Fait que... C'est ça. Donc, un autre dossier qui est à regarder de près pour...
Les patrons travaillent fort.
Oui, les patrons essayent fort de casser du sucre sur le dos des employés, mettons.
Ben, l'État, lui, sert de la crise. Les patrons, eux, ils n'ont même pas besoin de ça.
Ouais, ils s'en servent aussi pareil, mais bon.
Ouais. Mettons que je vois mal le gouvernement du Québec mettre la clé dans le port.
Effectivement, mais bon.
Ça serait pas pire.
Ouais, ça serait drôle. Sinon, ben, dans le domaine de comme les gens désagréables qui.
C'est vaste.
Ouais, c'est vaste, mais celui-là, c'est un désagréable un peu fasciste, ses bords. En fait, c'est le
Doc Mayou.
Le fameux Doc Mayou, ouais, c'est ça. Qui, en fait, a tenu des propos vraiment. Je pense que c'était vendredi dernier, le 6, qui a tenu des propos vraiment anti-musulmans. En fait, c'était comme très extrêmement raciste. Ses propos, c'était par rapport, en fait, à la fusillade qu'il y a eu dans une base militaire au Texas, parce que le tireur est un musulman, puis dans le fond, là, c'est selon lui, c'était comme la grosse affaire qui est...
Un peu plus, c'est génétique.
Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'il l'a pas mal dit, là, que c'est des êtres inférieurs en soi. Ah, oui, toute personne qui est musulmane, qui est pratiquante musulmane, est une personne inférieure, selon le docteur Mayou.
Ah oui.
Donc, mais bientôt, on va peut-être pouvoir se débarrasser de cette appellation-là de docteur ou Doc Mayou, là, parce qu'il a été encore une fois reconnu coupable par ses pairs, là, pas être un bon psychiatre, finalement.
Par le Collège des médecins, en fait.
Le Collège des médecins, c'est ça. Mais le Collège des médecins qui est reconnu à travers une enquête et à travers des plaintes qui avaient été faites par d'autres psychiatres qui ont été obligés de ramasser ces patients et ces patientes qui étaient en plus mauvais état ou presque après être passés entre ses mains.
Oui, parce on parle de doses massives de médicaments à tout vent.
Ouais, c'est ça. Ben, les cas en particulier, c'est surtout par rapport à des enfants. Dans le fond, il parlait de jeunes entre 6 et 12 ans, puis aussi d'adolescents là, entre 12 à 17 ans qui auraient reçu là, des doses inappropriées à leur cas, puis des traitements aussi, des diagnostics qui étaient inappropriés à leur situation, médication inadéquate, souvent des doses qui dépassent les normes, puis... Attendez, là, la liste continue. Pratique dangereuse non conforme à la science médicale. Investigation neurologique absente ou incomplète. C'est pas la job d'un psychiatre.
Il a travaillé dur.
Ouais, c'est ça. C'est comme toi, t'es un petit sale, puis ça finit là. Hein? Ça doit ressembler pas mal à ses interventions médiatiques quand tu vas le voir, lui.
Arrête de dire ça, il va venir à Radio à Québec.
Ouais, c'est vrai. En tout cas. Bon, fait que c'est ça. On va continuer à le dénoncer tant qu'il va sévir, mais disons qu'il est assez. Dérangeant.
Oui, puis il se défend tout le temps comme une victime, en fait.
Oui, c'est ça. C'est une victime de toutes les lobbies en question qui sont supposément inférieurs à lui.
C'est quoi? C'est un président au Collège des médecins, c'est ça, son titre? Ou le haut placé du Collège des médecins, il disait que c'était une vendetta personnelle qu'il avait, puis il était comme en compétition avec lui dans sa tête à M. Mayou.
Ah, c'est vrai, parce que lui, c'est un psychiatre, docteur...
Je sais pas.
Ouais, non, j'avais déjà entendu
que c'était... Je sais pas à quel niveau que c'était une compétition, là, mais c'était surtout dans la tête à Mayou.
Ouais, c'est ça. On s'en doute.
Grosse compétition.
Bon, mais sur ça...
On enchaîne en musique?
Ouais.
Oui, on va aller... tout de suite, on va commencer avec Les Ogres de Barbac, qui nous font une reprise des Béruriers Noirs avec Salut à toi.
Salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien,
salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien,
salut à vous les partisans, salut à toi la chaulie allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le Thaïlandais.
l'Irlandaise, salut à toi le Laotien, salut à toi le Coréen,
salut à toi le Polonais, salut à toi l'Irlandais, salut à toi l'Européen, salut à toi le Mongolien, salut à toi le Hollandais, salut à toi le Portugais, salut à toi le Mexicain, salut à toi le Marocain, salut à toi le Libanais, salut à toi le Pakistanais, salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain, salut à toi le Guyanais, salut à toi le Togolais, salut à toi le Guinéen, salut à toi le Guadeloupéen,
salut à toi le Congolais, salut à toi le Sénégalais, salut à toi l'Afro-Tunant, salut à toi le Portoricain, salut à toi la Haute-Volta, salut à toi le Nigérien, salut à toi le Gabonais, salut à toi le Vichy-Chimine,
salut à toi le Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Bertaga, salut aussi à la Banda, salut à toi le Pike anarchiste, salut à toi le Schiste communiste,
salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi le Nijambiste, salut le mouvement des Chefs-Arabes, salut à toi le Guatemala, salut le Pékin du Corvajon, salut à toi le Chocoblanc, salut à toi le Pope le Canac, salut à toi le Tchécoslovaque, salut à tous les petits dragons, salut à toi le Japon, salut à toi le Chapagage, salut à Simon le Peuple Basque, salut à toi le Jean-Violon, salut à toi le Morocco,
salut à toi le Yougoslave, salut à toi le Voyou Slave, salut à toi le Salvador, salut à toi le Molodoy, salut à toi le Chinois, salut à toi le Zaïrois, salut à toi l'Espagnol, salut à toi le Ravageur,
salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les Gosses, c'est moi des jusqu'à l'Écosse, salut à tous les Azouis, salut à la jeune Garouche, salut à toi le Peuple de France, salut aussi les Crésiens, salut à toi la Machine, salut à toi les Arabes, salut à toi le Peuple Roman, salut à tous les Kamaouais, salut à tous les Tigres, salut aussi à nos Riders, salut à toi l'Ordre, salut jeunesse du Mans.
Salut à toi Tonton Amber, salut à toi Kélamas, salut aussi à Fantomas, salut à toi Rocher des Prés, salut à toi Lundi Manché, salut à tous les paysans, salut aussi à Arnaud Blanc, salut à toi, salut à toi.
Alors, c'était Les Ogres de Barbac, une reprise de des Berruriers Noirs. En fait, salut à toi. Alors, on va enchaîner tout de suite, en fait, avec l'entrevue que notre camarade François nous a préparée avec deux membres du groupe. Le groupe Les Ogres de Barbac, c'est une histoire de famille puis de liberté, au sens libertaire du terme. Depuis une quinzaine d'années, ce groupe complètement éclaté avec des inspirations tziganes, punk et populaire, mais qui est toujours résolument engagé, il roule sa bosse en France puis à travers le monde. Puis Les Ogres, c'est une aventure qui passe avant tout par la scène puis par les amitiés, parce que en fait ce groupe-là a collaboré avec à peu près tout ce qu'il y a d'artistes progressistes actuellement en France. Puis à travers ça, en fait, ils enrichissent toute leur expérience puis leurs chansons. Fait que, on va céder le micro à François, puis ensuite, on va y aller avec une autre pièce des Ogres de Barbac qui est Rue de Paname.
Voilà, François Gécouillard en compagnie de Sam et Alice. Bonjour.
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 Alors, dites-moi, c'est quoi votre... vous venez d'arriver là pour la cinquième ou quatrième fois là, au Québec pour une autre petite tournée musicale. C'est quoi votre première impression là, sur le Canada, le Québec? Est-ce que c'est on va encore manger de la poutine? B, il fait encore froid? C, encore les maudits accents? C'est quoi votre première impression?
Non, nous, on est toujours super contents de revenir. La poutine, on a réussi à trouver autre chose. Donc, on se rattrape sur le reste. Mais c'est la quatrième fois qu'on vient. Et à chaque fois, c'est avec plaisir. Et on a prévu de revenir encore l'année prochaine.
C'est la première fois qu'on vient
une autre période que l'été. D'habitude, on vient l'été, donc on ne connaissait pas encore le froid. Donc ça, c'est bien. Voilà, on découvre. On ne connaît pas encore la neige non plus. On a encore des choses à découvrir.
J'ai appris aujourd'hui que vos parents, c'était des musiciens. Et vous, vous êtes évidemment une famille, c'est important de le dire. Vous êtes deux frères, deux sœurs, tout ça comme une grande famille. Et puis, je voulais savoir, pour comme ça continuer à faire un groupe ensemble pour bourlinguer à travers le monde comme ça, puis toujours travailler ensemble comme une grande famille, vos parents devaient être des gens très spéciaux. C'était des musiciens, mais parlez-nous un peu d'eux, là.
Je pense qu'ils ne sont pas particulièrement spéciaux. En fait, on a vécu normalement dans la banlieue parisienne. Et puis, notre père, en fait, était musicien avant. Après, il est devenu éducateur, donc c'est autre chose. Notre mère est institutrice, donc en fait, on vient d'une famille complètement ordinaire. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu une éducation très libre. On a eu le droit de faire un peu ce qu'on veut quasiment tout le temps. Et puis, surtout quand on s'est lancé dans la musique, on n'avait que 15 ans, on voulait partir sur les routes. Nos parents nous ont dit « Ouais, pas de problème, allez-y ». Ils nous ont prêté la camionnette, en fait, c'était la leur, la première. Donc voilà, on était assez libres, quoi.
Vos parents vous faisaient confiance?
Oui, dès le début, ils nous ont fait confiance. On était vraiment, nous, assez persuadés que c'était ça qu'on voulait faire comme métier. Donc voilà, ils ont bien compris et ils n'ont pas insisté sur les études.
Justement, au point de vue de l'éducation, vos parents sont instituteurs, mais vous dites qu'ils vous ont enseigné de façon très libre. Est-ce que vous avez fait l'école publique ou qu'est-ce que vous avez fait comme éducation?
Oui, on a fait quand même l'école publique, tous les quatre. On a été jusqu'au lycée, enfin pas tous, mais presque. Et puis, par contre, au moment où on a voulu faire autre chose, c'est-à-dire un peu voler de nos propres ailes, là, il n'y avait pas de souci, en fait. C'était... maintenant que vous avez appris la musique, vous avez appris ce que vous vouliez, maintenant il s'agit du concret, donc allez-y, quoi.
Et sinon, en dehors de ça, vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme musique exactement? Est-ce qu'ils s'étaient aussi inspiré de Renaud Brassens Ferré ou?
Pas ce qu'ils jouaient, mais par contre, c'est eux, vraiment, c'est les disques qu'on écoutait depuis gamin. Donc c'est vrai qu'on écoutait Renaud, Pierre Perret, Brassens, les trois que tu viens de citer surtout. Et puis voilà, ça nous a beaucoup influencé, beaucoup inspiré, ouais.
Est-ce que vos parents étaient des 68ards?
Non, même pas. C'était même pas des 68ards, même pas des ex-babacool. Même pas.
Et pas des communards non plus.
Non.
On parle de l'Ukraine, on parle peut-être un peu des tziganes. Vous, définitivement, vous inspirez de ce monde-là. Est-ce que vous-même, vous avez déjà vécu avec des tziganes ou...
On n'a pas vécu vraiment avec des tziganes, on en connaît beaucoup. Par contre, nous, c'est la vie qui mène, qui nous plaît. Donc, on a pendant quelques temps vécu un peu à leur manière. Et puis, on s'est acheté un chapiteau, on a fait des tournées sous chapiteau pendant des mois et des mois. Enfin, voilà, c'est un peu la manière de voyager, de vivre comme ça, sans avoir d'attache, qui nous a beaucoup plu. Et leur musique surtout. Leur musique nous a beaucoup inspiré et nous inspire.
Qui est Barbac?
Ah, qui est Barbac? Non, le nom, alors vraiment, le nom, c'était l'orgue de Barbarie, parce qu'on jouait dans la rue, on s'est dit, à un moment, il fallait trouver un nom, on jouait dans les bistrots, on n'avait pas de nom. Donc on a dit, allez vite, il faut trouver un nom. Alors, voilà, on a juste changé les mots, orgue de Barbarie, ogre de Barbac. Bon, c'est vrai qu'on aime bien la viande, allez, parce que Barbac, c'est la viande, c'est de l'argot, en fait, l'argot, un peu, donc la manière de parler, un peu la parisienne, comme ça, l'ancien parisien. Voilà, la barbaque, c'est la viande un peu de mauvaise qualité. C'est un peu un langage prolétaire, un peu. On disait la barbaque. Et en jeune, et on ressemblait pas du tout à des ogres, plutôt à des petits poussets. Et du coup, ce nom-là nous a fait rire parce que les gens qui nous connaissaient pas s'attendaient pas du tout à voir quatre jeunes avec l'accordéon, le violon et la flûte et tout ça. Ils s'attendaient plutôt à du hard rock. Quand on voit juste le nom comme ça, du coup, voilà, ça nous a fait rire.
Au sujet de la pièce Terrain Vague, vous avez fait une pièce comme ça qui pointe les travers de chaque région de la France avec en collaboration avec toutes sortes de groupes de chansons françaises. Et je voulais savoir, c'est une chanson qui s'apparente beaucoup à l'Hexagone. Je voulais savoir, est-ce que ça a été fait dans cet esprit-là?
Oui, c'est ça. Nous, en fait, on a beaucoup voyagé, mais surtout en France, hein, il faut dire. Et ce qui est rigolo en France, c'est qu'il y a une espèce d'esprit un peu de chauvin, de vrai chauvin, un peu partout. Alors ça nous fait rire, sauf quand des fois ça nous fait pas rire, parce que des fois c'est pas drôle. Mais en tout cas, les gens, à chaque fois qu'on va chez eux, ils nous disent « Ah, chez nous c'est super, chez nous c'est mieux que chez les autres. » Et partout, c'est mieux que chez les autres. Donc nous, comme on voyage partout, on s'est dit un jour « Tiens, on va faire une chanson pour se moquer un peu de cet esprit-là. »
En fait, je viens de réaliser, en t'entendant, Alice, que on pense à l'Hexagone, mais on pense aussi à les gens qui sont nés quelque part de Brassens. C'est en fait...
Ah oui, mais complètement, c'est cette chanson-là qui nous a inspiré ce truc-là. Et puis c'était, comme elle disait, nos tournées à travers toute la France, où ça nous a bien fait rire d'entendre tous ces gens-là qui disaient que chez eux c'était génial et qu'ailleurs c'était tout nul.
Peut-être justement, on parle de chansons françaises. Peut-être juste un mot sur... Je vous nomme un chanteur français qui est dans vos inspirations, et vous dites quelques mots sur eux. Donc, par exemple, commençons par Renaud.
Ex-rebelle. Faut dire un mot, c'est ça?
D'accord. Ouais, c'est ça, en fait. Renaud, c'est une enfance, parce que qu'est-ce qu'on l'a écouté?
Pierre Perret?
La bonne bouffe.
Ouais, et Camion aussi, parce qu'on... En partant en vacances avec nos parents, dans le camion, on avait des heures et des heures de route. C'était Pierre Perret.
Pierre Perret, c'était l'homme de la route. C'est lui qui vous accompagnait dans la route. Vous avez travaillé aussi avec lui. Commencez à travailler avec lui.
Oh bah, c'était une super expérience, puisque comme disait Alice, on l'écoutait nous depuis qu'on était petit. Et le fait de le rencontrer, et comme je disais, bonne bouffe, c'est parce qu'il nous invitait plusieurs fois à manger et que c'est le meilleur. C'est le meilleur, allez.
C'était quoi sa spécialité?
À manger? Oh, il fait. En fait, il tue le cochon et puis il fait tout ce qui va avec. Voilà.
Waouh! Et sinon, un mot sur Berrurier Noir?
Ah ben là, c'est plutôt adolescence, justement, où là, vraiment, on a commencé à écouter cette musique. Et donc, les Berrues, c'était les meilleurs.
Ouais, c'est toute une période de notre vie, les Berrues. C'est tous nos copains, avec tous les copains, on écoutait que ça, quoi.
Vous avez berlingué à travers le monde, vraiment. Je pense que vous êtes allé jusqu'en Asie, en Afrique, tout ça. Dites-nous, c'est quoi le pays le plus surprenant, le plus extraordinaire que vous avez vu là? J'imagine qu'il y en a plusieurs, là, mais essayez d'en trouver, disons, chacun un.
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme pays complètement extraordinaire? En fait, on a été un peu en Afrique et en Asie. Alors, par exemple, en Birmanie, moi j'étais en Birmanie, dans le côté un petit peu trash. C'est un pays complètement extraordinaire.
À quelle mesure?
Eh bien, parce que c'est magnifique, c'est très très beau et c'est très très doux, les gens sont doux. Par contre, c'est une dictature horrible et les gens sont complètement menottés. Donc c'est un pays qui est horrible, sauf que si t'as pas envie de le voir, bah tu le vois pas. Donc voilà, on est dirigé du début à la fin, c'est un pays très particulier.
Et vous êtes allé là pour jouer, pour une tournée, ou c'était juste autre chose pour autre chose?
C'était avec une association qui s'occupe de faire des spectacles en milieu défavorisé, donc c'était un spectacle de clown.
Clown sans frontières.
C'est ça, Clown sans frontières, en fait, on est parti en Birmanie. Ouais.
Un endroit où ils ont bien besoin d'arrêt. Et toi, un pays en particulier?
Alors, vite.
Pas le droit de dire la France.
Pas la France. Qu'est-ce qu'on a fait? Dernièrement, on l'a fait beaucoup. On a été plusieurs fois en Afrique. On a été en Mongolie. Et on a été aussi en Slovaquie. Alors, la Slovaquie, on a été en fait accueillis par des tziganes là-bas, qui ont des conditions de vie très très difficiles. Et on a rencontré un groupe de. Donc, un monsieur qui ramasse un peu tous les enfants comme ça, un peu perdus dans les villages tziganes. Enfin, c'est même plus des villages. En fait, les tziganes là-bas, comme beaucoup en Europe, se font rejeter des villes et ils les parquent dans des espèces de taudis en périphérie. Là, c'est en grande périphérie parce que c'est à 20-30 km de la ville pour vraiment être sûr qu'ils soient tranquilles. Et un monsieur qui ramasse tous les gamins comme ça et qui les fait chanter. Et on a travaillé avec eux. Donc, on est parti une semaine avec eux comme ça. Il nous a montré vraiment ce qu'ils faisaient avec ses enfants. Et on les a enregistrés, ça sortira sur un prochain disque. Là, on a fait une chanson avec eux, avec cette Zigane de Slovaquie.
Wow. Ouais. Le pitch, c'est quoi le nom de l'album? J'ai un blanc là.
Alors, Pitocha, c'est ça. Alors, Pitocha 2, c'est un disque pour enfants qui sort, et c'est la suite du premier qu'on avait sorti il y a quelques années.
Ça, il va même avoir une collaboration avec les Cowboys Fringants, c'est ça? Si je ne m'abuse. Mais justement, parlons-en un peu encore des tziganes. C'est probablement avec les juifs le peuple le plus ostracisé de toute l'histoire de l'humanité. Vous, justement, vous en avez rencontré plusieurs. Là, qu'est-ce que vous auriez à dire à ce sujet-là à propos des tziganes? Nous, au Canada, on ne les connaît pas beaucoup.
C'est vrai, on se demandait ici comment étaient perçus les tziganes, parce qu'en fait, ça doit être une sorte de légende. Mais en fait, chez nous, les tziganes, c'est vraiment... Autant en France, la musique est super écoutée, tout le monde adore la musique tzigane, c'est même depuis 5-6 ans, c'est devenu à la mode. Donc dans les boîtes de nuit, carrément, on écoute de la musique tzigane, mais on y rajoute un beat un peu péchu pour danser. Donc la musique est très respectée. Par contre, les gens eux-mêmes sont pas du tout respectés. Ils sont, la plupart des mairies ne veulent pas les accueillir, alors qu'ils sont obligés normalement. Chaque mairie de plus de 5000 habitants doit avoir un terrain pour eux. Et la plupart des mairies préfèrent payer une amende plutôt que de les accueillir. Et alors, quand on est parti dans les pays comme la Roumanie, la Pologne, etc., où on se dit qu'il va y avoir des tziganes et qu'on va les rencontrer et que ça va être chouette, eh ben on se rend compte que le racisme est encore pire là-bas. Là-bas, carrément, c'est la racaille qu'il faut laisser crever, on s'en fiche, quoi. Donc c'est vraiment dur pour eux, la situation.
Et sinon, c'est vrai, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous avez la vocation d'être carboneutre, ou comme les Cowboys fringants, par exemple, quand ils font une tournée, ils vont planter des arbres là, pour, par rapport à la pollution qu'ils ont générée. Est-ce que vous, c'est un objectif ou est-ce que... C'est...
Non, en fait, nous, ça c'est pas encore venu. Enfin, nous, ça se fait pas trop, ça. Par contre, je pense qu'étant un groupe de musique, effectivement, on consomme pas mal au niveau gasoil, ça c'est sûr, parce qu'on peut pas voyager sans dépenser à ce niveau-là. Mais je pense que dans la vie de tous les jours, on est quand même assez concernés et on fait tous nos petits gestes, même si, comme je disais tout à l'heure, c'est pas nous qui allons changer la face du monde.
Donc on a déjà quand même commencé à embarquer dans le dossier peut-être plus militantisme des actes de Barbac. Et est-ce que vous êtes inspiré de je sais pas, des expériences autogérées en Europe, comme des squats ou je sais pas, des coop, des trucs comme ça?
Non, ce qui nous a... Enfin oui, plus ou moins. D'ailleurs, on y jouait beaucoup au début dans ces lieux-là. Mais vraiment, ce qui nous a plutôt inspiré, c'est un esprit plutôt alternatif qui était dans les années 80. Donc, comme on parlait tout à l'heure des Berus, mais il y avait aussi la Mano Negra, tout ce qui était boucherie, production et tout ça. C'est plus ça, on les voyait partir, faire leur truc tout seul, partir en Amérique du Sud pour la Mano, ou même si c'était dans une maison de disques. Mais c'était, nous, comme on était ados, c'était cet esprit-là de voyage, d'aventure et puis d'indépendance et l'esprit alternatif, voilà, qui nous a mis sur cette voie-là. C'était vraiment ça.
Donc l'esprit alternatif, mais est-ce que vous avez quand même des penseurs ou des philosophes ou des gens comme ça qui vous inspirent ou pas du tout?
Ben, pour le groupe en lui-même, non, pas vraiment. Après, tous, on a nos idées sur la vie, sur ce qu'on... Enfin voilà, on a aussi des grandes discussions entre nous, mais on ne suit pas vraiment un chemin. C'est vraiment selon l'inspiration du moment. On est vachement aussi dans la discussion tous, donc quand il y en a un qui est pas d'accord, ben c'est toujours on fait 18 réunions par jour, quoi, par exemple. ouais, on est un groupe à réunion. Dès qu'il y a le moindre truc, bon, réunion, hop, et du coup on se retrouve tous et on discute et voilà, on boit un café et tout va bien.
Parce que, par exemple, vos inspirations en chanson française, on les connaît bien, mais en tant que je suis pas libertaire, on peut dire que c'est y a pas de nom précis, là, y a pas de...
Quelques-uns, mais enfin, on a peut-être lu quelques bouquins de Hubert Reeve ou de Albert Jacquard. Après, on écoute beaucoup Daniel Mermet, qui est une émission sur France Inter en France, voilà, où vraiment on trouve que ça correspond tout à fait avec nos idées. Une émission qui s'appelle Là-bas si j'y suis, qui parle, voilà, un peu de tous les problèmes sociaux qu'il y a en France et dans le monde entier d'ailleurs. Et voilà, c'est plutôt sur ce genre de sujet qu'on va se retrouver. Mais c'est pas le thème du groupe, voilà, c'est plutôt chacun entre nous, on aime bien les mêmes choses.
Sinon, c'est quoi vos livres de chevet, là? Est-ce que vous avez vous partagez des lectures?
Ouais, on se fait passer les bouquins, ouais. Après, il y a le manager qui lit uniquement des polars, mais nous, on lit autre chose, tu vois. Chacun ses goûts. Mais oui, c'est vrai qu'on se fait passer nos bouquins. En ce moment, on est branché sur on les a presque tous lus, je pense, les bouquins qui parlent du Rwanda, que ce soit des romans ou des bouquins historiques, parce qu'on en vient, en fait, on a été au Rwanda il y a quelques temps. Et du coup, voilà, en ce moment, on est branché là-dessus, et puis après, ce sera autre chose.
Sinon, on en a parlé tout à l'heure, vous avez dit que vous avez commencé à faire de la musique dans les squats, tout ça. Est-ce que vous avez déjà milité autrement que par la musique, ou dans des organisations, ou...
Autrement que par la musique, c'est une bonne question. Non, parce qu'en fait, on fait de la musique depuis tellement toujours que je crois que c'est notre manière de militer, ouais, depuis le début.
On en a parlé tout à l'heure, vous avez dit que vous faites beaucoup de réunions. Vous êtes une famille, vous êtes deux frères, deux sœurs, constamment ensemble. Vous devez passer les journées entières constamment ensemble. Et il doit y avoir de temps à autre des chicanes. Comment est-ce que vous résolvez ça, les conflits?
Par des réunions, pardi. Non, en fait, des embrouilles, il y en a comme dans n'importe quelle fratrie ou dans n'importe quelle bande de copains, d'ailleurs. Sauf que nous, on a un peu regardé aussi ce qui se passe dans les autres groupes, et peut-être qu'il y en a moins justement chez nous, des problèmes comme ça, des problèmes de, peut-être d'ego ou des problèmes de, voilà, d'humeur. En général, on arrive à les résoudre assez facilement, quoi.
Et bon, donc l'entrevue tire à sa fin avec les ogres de Barbac. Peut-être un mot de la fin. Qu'est-ce que serait le monde parfait selon les ogres?
Vas-y, commence.
Ah, c'est dur, le monde parfait. Ouais, le monde parfait. Le monde parfait, qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, c'est un tout petit exemple et c'est un tout petit détail, mais là, sur le prochain disque qu'on fait, il y a une partie des sous qui vont revenir à la création d'une association, Pitocha pour un monde de son, ça s'appelle. Et en fait, on va essayer de créer des projets dans des milieux défavorisés, c'est-à-dire des projets culturels, enfin, surtout musicaux, en fait. On va essayer d'aider les personnes qui ont envie soit de faire des groupes, soit même d'enregistrer dans des milieux où vraiment ils n'ont pas du tout les moyens. Donc pour l'instant, on va essayer de faire des choses comme ça. Et je pense que c'est un peu la vision qu'on a du monde pas parfait, mais qui commence à s'en approcher. C'est que par exemple, quand on était donc au Rwanda il n'y a pas très longtemps, les petits jeunes qui font la musique et qui ont fait un groupe et qui chantent très bien, qui n'ont pas du tout l'occasion ni de jouer, ni d'en vivre. Alors, on en est très très loin, mais au moins de pouvoir exporter un peu leur musique, de rencontrer d'autres musiciens, de faire des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui nous plairait vraiment si un jour, ça devenait vraiment international et pas que pour les petits, entre guillemets, bourgeois français. Si ça pouvait être accessible à tous, quoi, ce serait chouette.
Donc, pour résumer, Alice, un monde parfait, c'est un monde où tous les enfants jouent de la musique, dans le fond.
Par exemple. Ce serait le début, quoi.
Le début d'un monde meilleur. Je vous remercie beaucoup, Alice et Sam. À la prochaine.
Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, je fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Il y avait là deux, trois femmes qui faisait le tapin. Moi j'aiguisais ma lame pour planter les rupins. Les gens de bon quartier, les touristes, les vieillards aiment bien se promener le long des grands boulevards. Ils achètent des souvenirs, des tours Eiffel en plastique. Les saltimbanques les font rire, mais faudrait qu'on leur explique qu'il y a de la merde partout, de la drogue et surtout des jeunes en galère qui trafiquent la misère. Ouais, je dois bien avouer que j'y passe toutes mes journées. C'est que parfois Paris, c'est la joie et la folie. Croyez-moi bientôt, les flics auront du boulot, car tous les vagabonds parlent de révolution. Un jour toutes nos chansons, ouais, vous désarmeront. Il n'y aura plus que la folie, la joie et l'anarchie. La joie et l'anarchie, la joie dans Paris.
rappelle que c'était Les Ogres de Barbac avec la chanson La rue de Paname. Et on remercie notre camarade François pour cette belle entrevue avec les deux membres du groupe. Alors, on va y aller avec Janie qui veut nous parler de l'itinérance à Rouyn-Noranda.
Oui, c'est ça. C'est dans une ville, la ville de Témiscamingue, Rouyn-Noranda. C'est que l'itinérance prend l'augmentation dans cette ville-là depuis quelques années. Il y a la maison du Soleil Levant qui est une ressource d'hébergement d'urgence. Il a constaté une augmentation de sa clientèle de 25 % depuis 2005. Ça a passé de 160 à 200 personnes. C'est un phénomène qui est quand même plus qu'un air, ouais, mais qui est quand même bien réel. C'est souvent des guichets et des arrêts de bus qu'on les voit partout où ils ont accès avec les portes sur barrées. Ils peuvent aller coucher là, mais souvent les policiers sont obligés d'intervenir. Puis ça serait aussi lié en partie à la crise du logement, parce que il y a un manque présentement là de logements abordables, sécuritaires et salubres. Donc nécessairement ça influe sur le phénomène d'itinérants, puis ça augmente le nombre de sans-abri. Selon le regroupement d'éducation populaire de la ville de Témiscamingue. Puis, mais cependant, l'agent de la santé de la ville de Témiscamingue, ils n'ont pas encore chiffré le nombre d'itinérants. Ouais.
OK, mais là, on dit entre 160 et 200, puis ça, c'est un groupe populaire qui.
Oui, c'est ça. C'est une ressource en hébergement d'urgence qui ont constaté une augmentation de la clientèle.
OK. Ouais, puis Rouyn-Noranda, c'est quoi? C'est une ville.
Ah, c'est, tu comptes les villages qui ont été pas annexés,
fusionnés,
ben c'est plus ou moins 40 000 personnes.
OK. Okay. C'est quand même une bonne population pour d'itinérants ouais, pour cette population-là.
Ben, Rouyn-Noranda et l'industrie étant ce qu'elle est.
Oui, c'est ça. Quand il y a des hauts dans la production, il y a tout plein de monde qui arrive.
Venir du monde.
C'est ça, puis qui reprennent les logements. Puis il n'y a pas assez. À cause de cette situation-là aussi, la construction des logements est pas très encouragée.
Et puis en plus, il y a un manque de terrain, en plus. Donc, il y a plus de construction résidentielle ou des maisons, mettons, de bungalows ou des logements. Pas tellement, non.
Mm-hmm. Donc, OK, mais c'est pas joyeux, surtout dans le Nord à ce point-là. Il doit faire frais en maudit.
Oui.
Ouais, un abribus, ça cache pas du froid trop.
Non, surtout qu'ils doivent pas être si communs que ça, les abribus à Rouyn. C'est... À la grosseur de la ville, en tout cas. Mais il n'y a pas juste à Rouyn, bien sûr, il y a comme il y en a à Québec, mais il y en a aussi à Montréal. Puis cette semaine, il y a eu un avis de la Commission des droits de la personne par rapport au profilage social, dans le fond, qui serait fait envers les populations itinérantes à Montréal. En fait, c'est simplement ou simplement. La stratégie de la police est relativement simple, c'est que on donne des contraventions systématiquement aux gens qui sont itinérants, qui ont l'air de l'être, sinon qu'on peut penser à des jeunes punks, des jeunes qui sont considérés comme marginaux et
c'est
tout.
C'est quoi l'amende?
Ah ben des amendes d'une variété ma foi énorme là dans le sens
flâner,
cracher par terre, jeter un mégot par terre, avoir un chien à un endroit quelconque
sans médaille,
c'est ça entre autres, oui. Puis en plus là au centre-ville de Montréal, puis dans la plupart des parcs de la ville là, sont en train de tout être interdit à partir de 11h, je crois, peut-être même 11h minuit. Puis il y en a beaucoup aussi qui sont interdits aux chiens.
À moins qu'au centre-ville, c'était pas appliqué, mais
Corée-Berry, c'était pas vraiment appliqué. Okay. Sauf que là, ils sont rendus qu'ils l'appliquent vraiment systématiquement. Puis en plus, ils ont rajouté l'interdiction d'avoir des chiens. Puis c'était assez commun, en fait, qu'il y avait des personnes itinérantes qui se tenaient là, puis qui avaient leurs chiens avec eux autres, puisque c'est souvent le cas, justement, pour se réchauffer l'hiver, c'est un des moyens qui est utilisé par
ça. Ça fait aussi un compagnon.
Ça fait un compagnon, mais en tout cas, c'est un peu les deux. Fait que c'est ça. Bref, il y a cette dénonciation-là qui est arrivée contre la police de Montréal par la Commission des droits de la personne. C'est quand même pas... C'est quand même un organisme qui a tendance à être... En tout cas, reconnu,
juste,
mettons. Là,
c'est juste des sales gauchistes contre la police encore.
Bah, ouais, c'est ça. C'est juste des avocats sales gauchistes. En tout cas, bref, c'est ça. Ils ont dénoncé ça. Puis en fait, là, ce que... Ça vient pas de nulle part, en fait, ce constat-là. Il y a une chercheuse de l'Université de Montréal qui est professeure en travail social, Céline Bello, qui avait fait une étude entre 94 et 2005, puis elle s'est rendue compte que c'était les constats émis aux itinérants et aux itinérantes avaient progressé de 315 %. Donc, entre ces 11 années-là. Bien que cette population-là soit de moins de 1% de la population, ça fait le tiers des constats aux règlements municipaux qui ont été donnés en 2004, puis le cinquième en 2005. Fait que c'est ça, là. Apparemment que ça aurait suscité un début de conscience au sein de la police, mais je pense pas que... En tout cas, apparemment, il n'y a pas eu vraiment de changement d'après les groupes populaires. En fait, entre autres, les gens du RAPSIM, le regroupement d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, en fait, ils constatent que avec l'optimisation là, de la police de quartier, là, la police de proximité, les flics à pied, bref, ils ont développé, dans le fond, une approche de gestion différente de certaines populations, dans le sens de comme on cible des populations sur la base de justement de profilages divers. Fait que ben c'est ça, là. Bref, ce que les groupes populaires réclament, ben c'est d'agir à la base, à la source, pour donner de l'aide au lieu de donner des claques. Puis donner,
ouais, parce que ça, c'était un cycle. À Québec, pour le 400e, ils ont fait un truc semblable par rapport au Squidgy puis au flanc neige. Mm-hmm. Puis au fond, ce que la police a fait, c'est qu'elle détourne la loi, en gros. Elle donne des amendes, mais normalement, c'est une amende, t'as payé pas, tu te ramasses en dedans, t'as pas une amende à toutes les 24 heures.
C'est ça.
Pour que là, la police, elle se rende compte, OK, là, il y en a assez pour faire une couple de mois en dedans. Mm. Là, on le ramasse, on demande à ce qu'il soit mis sous mandat, il est mis sous mandat, puis pox, on l'envoie en dedans pour l'été. Moins de squeegee dans les rues.
C'est ça. C'est exactement ce qui arrive à Montréal aussi. Ils mettent en prison pour un temps, puis là, tu te ramasses avec un casier.
Tu te ramasses avec le pire des mondes. Tu leur crées le cycle. Un itinérant qui essaierait de s'en sortir, qui travaillerait pour payer juste ses amendes,
il s'en sortirait même pas parce que ouais, ben c'est ça, tu après ça essayes de te payer justement un appartement puis tout ce qui vient avec.
C'est pas long, 2000$ d'amende quand ouais, par ça. Exemple, faire le squeegee à Québec, c'est autour de 260$ d'amende.
Tabard, ouais.
C'est pas long. C'est quoi, je veux dire, c'est pas des millionnaires là.
Mais non. On s'entend qu'ils n'ont pas non plus les moyens d'avoir un avocat pour les défendre.
Il y a certains groupes communautaires qui essayent de faire la défense légale, mais c'est des groupes communautaires. Hein, fait ça. Que s'ils jappent un peu trop fort, ils se font couper les subventions, puis ben, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, fait qu'ils peuvent pas faire grand-chose.
J'ai déjà vu une exposition d'une artiste, mais dont je me rappelle plus le nom. En fait, c'était justement elle avait photographié des personnes itinérantes avec leurs piles de contraventions. Puis dans certains cas, c'était vraiment impressionnant, là, tu sais, mais en fond, c'était justement dans le but de dénoncer ça il y a une couple d'années. Puis des fois, là, t'avais des piles de 5-6 pouces là, tu sais, vraiment là, qui gardaient toutes, là, on s'entend, mais c'est quelque chose. Là. Fait que bon, mais. On va essayer de se battre de ce côté-là aussi, hein, parce que c'est assez grave.
Ouais, puis c'est pas une population mobilisable trop, parce que quand t'es en état de survie, c'est pas dans ces cas-là que t'arrives à te mobiliser, créer un groupe. Il y en a, ça arrive, mais c'est très difficile.
C'est parce qu'il faut que tu te battes pour ta survie à tous les jours.
C'est ça qui... Si la personne a mendi sur le bord de la rue ou elle passe un balai dans ta vitre, c'est pas parce qu'elle a 50$ dans ses poches pour aller manger au resto, là. En tout cas, contrairement à croyance un peu trop populaire à mon goût.
Ouais. En tout cas, dans le domaine du profilage, on en a eu... en fait, ça fait une couple de semaines là, depuis qu'il y a eu la reprise de la commission d'enquête dans l'affaire de Freddy Villanueva. En fait, on a vu que le SPVM avait aussi une autre forme de profilage. Là, c'est le profilage policier, dans le sens que les policiers sont beaux puis sont fins. Puis c'est comme... comment il a dit ça, l'enquêteur?
Digne de confiance.
Nous, les policiers, on est honnêtes. Honnêtes, oui. Comme d'emblée, genre. C'est comme... C'est intrinsèque. Donc,
c'est génétique.
C'est ça.
Demandez à Mayu.
Quand tu rentres dans la police, ils te font un test génétique pour savoir si t'es...
Ils ont le gène honnête surdéveloppé.
Fait que bref, on a vu ça, puis là, ça pose vraiment des grosses questions par rapport aux enquêtes policières sur la police. En fait, c'est ça, il y avait une lettre ouverte cette semaine que j'ai croisée dans Le Devoir. En fait, c'est la Ligue des droits et libertés, l'Association de l'avocat de la défense de Montréal, puis un conseiller municipal aussi de Montréal qui demande, en fait... une fois de plus qu'il y a des formules d'enquête différentes pour les enquêtes sur les meurtres policiers, bref. Puis en fait, le mécanisme d'enquête indépendant, c'est ce qui est demandé. Sauf que là, ce qu'on dit aussi, c'est que de faire attention aussi dans la mesure où en Ontario, ils ont un mécanisme d'enquête indépendant, entre gros guillemets, parce que c'est des policiers à la retraite qui font les enquêtes au lieu d'un corps de police comme tel.
Oui.
Fait que tu sais, puis les statistiques là sont grosso modo extrêmement semblables là, à genre 0.5% près là, de comme
fait
différence.
Que là, ici, la police au Québec doit se dire ah, mais vous voyez, ça sert à rien.
Ben c'est ça, ça sert à rien, mais là c'est parce que maintenant en tout cas, faut falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'on trouve de quoi quelque part pour changer ça, ou peut-être toute une révolution, on sait jamais, mais
dis vite donc.
C'est comme ça, mais tu sais, c'est parce que c'est comme si on a... En tout cas. Bref, c'est effectivement une demande extrêmement pertinente dans le contexte, puis j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi la conclusion de cette commission d'enquête-là sur...
C'est un gros pétard mouillé qui s'annonce.
Oui, ça s'annonce, mais c'est ça. Mais j'espère qu'il va y avoir encore une belle mobilisation populaire. Je pense que le quartier n'est pas vraiment démobilisé depuis. Je pense que les gens attendent, mais en tout cas, on risque...
La dernière fois qu'une police a été... Une police au sens organisation, pas un individu, a été... brassé entre gros guillemets, ça a été fait par gouverneur de l'État de New York l'an passé ou il y a 2 ans, et comme par hasard il y a un scandale qui a éclaté sur le gouverneur
après.
Ouais, comme par hasard, tu sais, la police est supposée, bon, en tout cas c'est marqué servir et protéger sur leur voiture, un truc du genre là, mais tu sais, c'est une entité plus ou moins autonome, plus ou moins indépendante, je veux dire, aussitôt que tu la déranges trop, que, peu importe la manière, mettons nous dans la rue, on la dérange trop, on se ramasse en dedans. Mais le pouvoir politique la dérange trop, ça éclabousse aussi.
Puis ils se promènent avec des guns, fait que ça aide à avoir un certain rapport de force, surtout qu'ils ont le droit de s'en servir.
Abondamment.
Abondamment, c'est ça. Bon, ben, fait que ça serait ça pour nos affaires de profilage.
Yes, ben, on pourrait faire. T'avais-tu 2-3 plugs à faire, non? Oui.
Ah, bon, c'était dit qu'on voulait peut-être plugger. Ah, c'est vrai, mais le temps passe,
Oui.
Bon, on voulait peut-être plugger.
Clash Reggae qui va avoir lieu à l'HT à partir de 22h, c'est vendredi.
Yes, cette semaine, c'est Real Fire, un sound de Québec contre Rhythm Wise de Montréal. Soyez nombreux et nombreuses. C'est le gros party.
Yeah, c'est toujours...
À l'agité, oui.
Oui, à l'agité.
Au 251 rue Dorchester.
Yes, coin Prince-Édouard.
Ouais.
Et sinon, pas de manif, pas rien.
Non,
pas cette semaine.
Non,
on est à Québec, hein.
Ah.
Puis on a toujours un blog, par exemple, qu'on a,
ah oui?
On a pas plugué ce
pas
soir.
Ou donc, cet après-midi, si vous nous écoutez,
oui,
à notre diffusion le jeudi à 14h.
Effectivement. Alors, notre blog, je vous rappelle, c'est Voix de fait avec un X et un S, .blogspot.com.
Oui, alors, pour nous suivre toute la semaine.
Oui, avec toujours des actualités fraîches. Et,
yes. Ouais. Et on va finir cette semaine avec du Caméra Silence pour notre... bon ami Mathieu, s'il nous écoute, avec la pièce Identité, on vous dit à la semaine prochaine.
Ciao!
Bye!
qu'on en fasse. Il est trop tard pour en changer.
Cette émission vous était présentée en rediffusion.
Il est de retour!
Et oui, le gourmet voyageur est de retour avec sa table d'hôte tout en musique et en chronique.
La musique, des entrées, un plat principal et un dessert qui sauront délecter les oreilles les plus difficiles. Les chroniques, laissez vos chefs Nico et Mary vous informer sur une multitude de sujets touchant la musique et les voyages.
Ne manquez pas le premier service, tous les jeudis 19h sur les ondes CKIA 88.3.
CKIA, c'est une radio près de moi, une radio divertissante, enrichissante, pleine de bonnes nouvelles extraordinaires pour nous à tous les jours.
Tu aimes cette station, toi aussi? Deviens membre! Le dimanche à CKIA, les livres sont à l'honneur. Entrevues avec des écrivains, nouveautés, critiques de romans, de poésie, d'essais, de bandes dessinées et informations sur tout ce qui grouille et grenouille dans le monde du livre. L'émission Épilogue vous promet tout ça et encore plus. Le magazine littéraire Épilogue, dimanche midi, rediffusion lundi 10h sur les ondes de CKIA FM.
La vie de Québec s'écrit chaque jour avec ses artistes, sa musique, ses livres, ses expositions, ses conférences et ses rendez-vous sociaux et communautaires. Et l'Impromptu, c'est un peu de tout ça, un magazine socioculturel d'une heure où on vous propose entrevues et rencontres avec tous ceux qui font vibrer Québec. On vous attend à l'Impromptu, du lundi au vendredi 11h, en rediffusion du lundi au jeudi 16h et vendredi 15h sur les ondes de CKIA FM 88.3.
Les mots à la bouche, avec Isabelle Bauger. Parce que vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Parce que les mots passent de bouche en bouche, mais les avez-vous vraiment écoutés? Écoutons-les ensemble, les lundis et jeudis, à midi et 15h50, sur CKIA 88.3 FM.
Hi, this is Buffy St. Marie. You're listening to CKIA 88.3 FM. Stay tuned.